beaucoup.
Waouh, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a juste pas envie d'en sortir. Et l'idée, ce n'est pas qu'on en sorte maintenant, mais qu'on puisse vraiment rester dans sa présence, rester dans cette présence de Dieu, se laisser toucher par Dieu. Il y a vraiment une atmosphère de sa vie. Et juste pour rebondir sur la pensée de Jonathan, et avant que je rentre dans ce message, j'ai vraiment cette pensée que c'est vraiment un rendez-vous particulier pour plusieurs ce matin. Il y a peut-être différentes choses qui se sont passées dans ta vie ces derniers jours ou semaines. Ce n'est pas un hasard. Dieu te cherche. Dieu cherche ton cœur. Soit parce que tu ne le connais pas encore énormément, soit parce que tu le connais, mais il a envie de tellement plus. Et Dieu te cherche. Dieu désire ton cœur. Et il fait tellement bon s'approcher de Dieu, être dans sa présence et pouvoir vivre des temps comme ça. Ici, quand on est tous ensemble, quand on est dans les maisons, puis aussi chacun chez soi, dans sa voiture, dans son salon, sur son balcon, dans la forêt, pour élever Dieu, ce nom qui est tellement puissant, qu'il est digne d'être loué, au-delà des mots, au-delà de nos sons, mais de tout notre cœur, par notre vie. Amen. L'autre jour, je m'installe pour prendre un temps avec Dieu, chez moi, et je lève les yeux, et c'est un des rares jours de brouillard complet. Oui, j'ai quand même compté, parce qu'après on va le ressortir, mais souvent on peut être dessous, mais c'était le quatrième de l'année, où on était vraiment dedans. Mais vraiment en plein dedans, et je suis là, j'ai mis la louange en arrière-fond, moi j'aime bien qu'il y ait une atmosphère de louange pour vivre un temps avec Dieu. Et je vois à peine les maisons qui sont devant chez moi, rien plus loin, vraiment. Et puis, comme dans un élan, sans réfléchir, j'ai commencé à remercier Dieu pour le magnifique endroit où on habite, même si je voyais rien du tout devant, et j'ai remercié Dieu pour la vue magnifique. Je vous assure que je l'ai fait, et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cette vue magnifique sur le lac, sur les Alpes. Là, maintenant, je vois rien. Il y a du brouillard, mais je sais ce qu'il y a derrière. Et ça m'a tellement parlé, c'était comme une révélation, c'était pas juste l'auto-persuasion, j'ai fait ça sans tellement réfléchir, mais j'ai réalisé que Dieu était en train de me faire vivre quelque chose. C'était fort. Je sentais que quelque chose était en train de se passer dans l'esprit, en moi. Et je regardais devant, c'était tout blanc, on ne voit pas à 20 mètres. Et pourtant, je savais qu'il y avait un lac plus bas. Et oui, au loin des superbes montagnes. Le brouillard, ça n'a pas remis en doute tout ça. Pourquoi ? Pourtant, on ne distingue rien. Ben, c'est normal, j'avais déjà vu X fois le lac ou X fois les montagnes. Et ça paraît normal, c'est rien d'exceptionnel. Pour chacun d'entre nous, on est tous pareils. Mais humainement, notre cerveau, nos émotions, notre raisonnement, ils sont assez matures pour qu'on ne va pas remettre en doute ce qu'il y a derrière, parce que tout à coup, il y a du brouillard. C'est juste qu'on ne le voit pas. Je vous montre quand même la photo comme en scène d'habitude. Enfin, d'habitude, ou quand c'est des bonnes circonstances. Mais si tu vas sur la tour de Chaumont, un jour de brouillard, puis que tu regardes la mer de brouillard, ben c'est joli aussi, ben tu sais qu'il y a un lac en dessous, qu'il y a une ville en dessous, qu'il y a un paysage en dessous, tu sais qu'au loin il y a des montagnes. Pourquoi ? Parce que tu l'as déjà vu. Et puis peut-être que tu y es même déjà allé dans ce lac. Je crois, même si je ne vois pas, parce que j'ai déjà vu, puis je sais que ça existe. Et alors que je suis là, chez moi, en train de louer le Seigneur pour la vue qui existe, mais que je ne vois pas, j'ai senti que c'était un peu comme le next step, c'est-à-dire le pas suivant dans lequel Dieu voulait nous faire entrer. Croire sans voir. Croire sans voir. Croire même si on ne voit pas. Et voilà qu'avant-hier, Shelley m'envoie un audio avec une petite pensée qu'elle a reçue parce qu'elle est en train de prier pour cette préparation, pour ma préparation de message. Et puis elle me dit, il était déjà en place mon message, même si j'aime me laisser inspirer aussi sur le moment où bousculer, mais j'ai déjà préparé ces photos, est-ce que j'allais vous dire en intro. Puis elle me dit qu'elle est en train de prier, et puis quand elle a regardé le lac, puis elle a vu comme des mouvements, comme des dessins sur le lac, même s'il n'y avait pas de bateau. Et elle avait ce sentiment que ce lac, c'était la présence de Dieu, et Dieu disait, votre rôle, c'est de vous baigner dans ce lac, et c'est moi qui dirige toute chose. Puis elle voyait tous ces mouvements. Et alors on y va, Dieu agit, il fait son œuvre et il fait ce qu'il désire. Et moi, d'entendre ça, ça m'a tellement touché parce que je réalisais que Dieu, déjà, il nous parle. Ce n'est pas juste des fois des impressions, puis on va dans un sens, mais on l'a déjà prêché il y a quelque temps, il y a 15 jours, mais aussi il y a un mois. Dieu, il nous parle en tant qu'Église. Il a envie de nous amener quelque part. Il a envie de t'amener, de m'amener quelque part. Et il nous parle par sa parole, il nous parle par les uns et les autres, il nous parle directement. Et alors que j'avais cette pensée au départ que Dieu voulait nous faire rentrer dans la foi, c'est-à-dire comme rentrer dans sa présence, dans ce lac, même dans les choses qu'on ne voit pas, alors qu'elle me partage cette pensée juste 2 jours avant, quand on se demande si c'est vraiment bien ce qu'on va dire, ça m'a tiré les larmes et je me suis dit, mais ce n'est pas juste des impressions, mais c'est vraiment ce que Dieu veut nous faire vivre. C'est le moment d'entrer dans ce lac qu'on ne voit pas, c'est-à-dire dans ce lieu de la présence de Dieu où il agit et où il y a du mouvement. C'est le moment d'entrer dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est quoi qu'on ne voit pas ? Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et c'est le titre de mon message ce matin, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et j'aime bien cette version de Parole vivante d'Hébreux 11, 1 qui dit « Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » C'est fort, on est absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Et j'étais époustouflé en lisant l'autre jour l'histoire d'Hélène Keller, qui est une femme qui est née en 1880 en Alabama, puis à l'âge de 2 ans, elle a une congestion cérébrale qui la laisse sourde, muette et aveugle. Et même en étant coupée du monde, elle est devenue écrivain, elle a écrit 12 de livres, notamment pour se battant pour les minorités, et puis elle a dit la chose suivante, « La foi est la force par laquelle une âme, une personne, voit les merveilles invisibles et croit à ce qui est invisible. » Elle est sourde, muette et aveugle, et elle dit que la foi, c'est la force par laquelle une âme voit les merveilles invisibles et croit à ce qui est invisible. Et moi, je sens vraiment que Dieu désire nous parler, me faire aller plus loin en tout cas, nous faire aller plus loin en tant qu'Église au niveau de la foi, de rentrer dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne peut pas toucher. Et ça me parlait particulièrement aussi dans la suite de mon dernier message. Il y a un mois, j'ai prêché sur le fait de semer, non pas de semer dans un mauvais climat, mais de semer dans un climat propice pour pas qu'on s'épuise finalement à faire des choses sans grand résultat, mais de semer lorsque le ciel est ouvert. Et j'ai partagé une pensée prophétique pour lancer l'année, que c'était une année où c'était le temps de semer. Et si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage à aller sur notre site pour l'écouter, pas pour entendre mon message, mais pour voir un petit peu où c'est qu'on veut aller ensemble et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette saison. Et à la suite de ça, je suis convaincu, à la suite de ce message et avec ce que Dieu veut nous faire vivre maintenant et ce qui me parle, c'est que si on ne sème pas plus, si on ne sème pas davantage, c'est parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qui va vraiment pousser ou si ça va pousser. Et on a vu que semer, ben, c'est une image, c'est prier, c'est témoigner à d'autres, c'est prier pour la guérison, c'est prier pour que des situations changent, c'est prier pour la délivrance, c'est aimer son prochain, c'est servir, c'est se donner, c'est des semences de vie qu'on plante. Et ce qui nous retient parfois de semer davantage autour de nous, c'est de ne pas être sûr que ça va vraiment pousser. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Si je témoigne, est-ce que ça va toucher l'autre ? Ou bien est-ce que je vais me ramasser un râteau ? Si je prie pour la guérison, est-ce que ça va marcher ou est-ce que je vais passer pour un hurluberlu ? Si je prie pour que telle situation sans issue change, est-ce que ça va s'ouvrir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer ? Et douter du résultat, ça peut nous faire hésiter à semer et nous retenir à semer davantage et y aller à fond, j'allais dire. Et puis on va le faire un petit peu épisodiquement. Pas parce qu'on n'est pas sûr que ça va vraiment marcher. Et c'est pour ça que Dieu désire nous faire rentrer dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est un nouveau niveau de foi, qu'on puisse semer avec abondance. Et ça, c'est vraiment la pensée principale de ce message. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment prier pour que Dieu continue de nous parler. Et Seigneur, je te prie, tu as parlé déjà, on a senti ta présence vraiment pendant ce temps de louange. Tu nous as parlé par des pensées, tu parles à plusieurs, même en dehors de ce qui est dit ici, tu touches plusieurs. Ils sentent le Saint-Esprit qui touche leur cœur, quelque chose en train de se passer dans leur vie. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses pas juste nous faire emmagasiner de la théorie ou de la connaissance, mais que tu puisses libérer ta révélation au milieu de nous et que tu puisses nous activer dans une foi qui fait bouger les circonstances. Que tu puisses nous activer là-dedans. Et je prends autorité contre tout esprit d'incrédulité maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et toute racine de doute dans cette salle, on les coupe au nom de Jésus. Et je refuse qu'on soit plafonné par le doute, mis en boîte par un manque de foi et du coup d'audace au nom de Jésus. Mais Seigneur, propulse-nous dans un élan qui vient de toi, un élan de vie. On veut vraiment être connecté à ton esprit de vie, esprit de création, esprit de puissance. Amen. Le semeur, il croit que ça va pousser et c'est une certitude. L'agriculteur, par exemple, je ne sais pas si vous habitez tout près de champs, qui sème à côté de chez vous, c'est parce qu'il croit que ça va pousser s'il le fait. Sinon, il ne le ferait pas. Parce qu'il perdrait de l'argent en dilapidant tout ce qu'il a. Imaginez si un agriculteur, il a un immense sac de blé, il a deux options. Soit, je vais dire, il le mange, c'est-à-dire qu'il en fait de la farine, de la pâte, du pain, il peut manger ses semences, ou alors il les prend et il les jette, enfin il les sème. Si tu sèmes, tu vas récolter beaucoup plus que ce que tu aurais juste mangé ou juste gardé. Mais des fois, ce n'est pas si simple, parce que semer, on a des fois l'impression qu'on est en train de dilapider ou de jeter ce qu'on a reçu. On pourrait les manger. Et on croit des fois qu'on les perd. On pourrait utiliser ces promesses, ces semences, ces dons ou l'onction qu'on a reçue pour nous-mêmes, pour être bénis, pour réussir sa vie. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun, évidemment. Il y en a toujours de façon bien assez pour soi-même aussi. Ça déborde dans les greniers du Seigneur. Ou bien on peut semer autour de soi et répandre ses semences. Mais la petite graine, là, je vais en faire quoi? Est-ce que je la mange, je m'en nourris, ou est-ce que je la plante pour qu'elle en produise beaucoup plus? Et en me renseignant, j'ai lu qu'en moyenne, une graine de blé, et ça, c'est pas une image d'une graine de blé, mais elle produit une plante qui a plusieurs épis, qui peut contenir de nombreuses graines, et on estime qu'une seule graine de blé, elle peut potentiellement produire des dizaines de graines à la récolte. Il y a un effet de multiplication qui est fou. Et ça, on parle du monde naturel, mais on sait bien que le monde naturel, c'est le reflet aussi du monde spirituel, et des principes, on a parlé il y a un mois, de cette puissance de création qui fait croître les choses. Et là, c'est un effet de multiplication qui est quand même assez dingue, c'est fois 30, 50, fois 100. Et semer, c'est donner ce qu'on a. C'est notre part, c'est ce qu'on a. Et la part de Dieu, ben, c'est de faire croître, c'est de faire grandir, c'est de faire pousser, c'est de multiplier. Semer, c'est croire qu'il vaut mieux, entre guillemets, perdre ses semences que de les garder pour soi-même et de les manger. Et c'est dans cette optique que Jésus y prêche. Et ce qu'il dit, c'est impactant quand il dit dans Jean 12, 24, « Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et la version parole vivante nous dit, « Le grain donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. » Et au verset 25, Jésus poursuit, « Celui qui est attaché à sa propre vie la perdra, mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis, et mon Père récompensera celui qui me servira. » Et Jésus, en quelque sorte, il parlait aussi de sa vie qui donne pour porter du fruit, parce que semer, c'est donner, comme Jésus s'est donné. Mais semer, c'est aussi être prêt à me donner, à donner ce que j'ai, à le perdre en terre, en quelque sorte, donner qui je suis, me donner pour Dieu, me donner pour les autres, pour que ça porte du fruit, puis que ça se multiplie. Et semer, c'est vraiment une histoire de foi. Et si je crois qu'une graine, elle peut produire fois 10, fois 20, fois 50 ou 100, je ne vais pas hésiter à la planter. Et je vais avoir un élan, avec foi, avec audace, je vais le faire, parce que j'y crois qu'il vaut mieux la semer, ça va se multiplier. Mais des fois, d'y croire, ça peut coûter, parce que le pain frais que je pourrais faire dans l'immédiat, avec mon petit sac de blé, ça serait quand même sympa. Semer, c'est investir pour l'avenir plutôt que de profiter de l'immédiat. Et je ne parle pas forcément d'avenir lointain, à long terme, même si c'est un principe qui est vrai aussi, mais ce n'est pas de ça que je parlais aujourd'hui. Par exemple, on sème dans la vie de nos enfants pour le futur. C'est un exemple, mais ce n'est pas de ça que je parlais. Mais là, je le dis même pour le jour, le jour. Par exemple, tu as un voisin ou un collègue qui est malade, ou qui a une douleur ou quelque chose. C'est peut-être moins gênant de rien dire sur le moment que de semer la vie en proposant la prière. Et que finalement, ça se multiplie, parce que peut-être que la prière, la semence de vie et de guérison que je plante, si Dieu agit, ça va le toucher, et ça va toucher peut-être sa famille. On le voit dans la Bible, tout à coup, il y a une famille entière qui se tourne vers Dieu. Je sème la vie et ça se multiplie. Mais ça coûte de semer la vie. C'est plus confortable peut-être de rien dire. Ou c'est plus confortable de se retrouver à quelques amis, de manger ensemble nos pains et nos révélations de Dieu, plutôt que de s'ouvrir à d'autres gens qu'on connaît moins et en qui on va semer la vie. J'ai été frappé par le verset suivant, c'est dans le psaume 126, les versets 5 à 6, qui dit « Ceux qui sèment avec larmes, avec des chants d'allégresse, ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. » Et c'est parlant parce que si on poursuit dans la pensée de mon précédent message, on ne va pas semer quand le climat il est mauvais, pour que finalement on ne fait que de souffrir ou de perdre du temps et de l'effort et de l'énergie. On va le faire quand le ciel est ouvert. Et si le ciel n'est pas ouvert, ben on va nous-mêmes prendre autorité pour qu'il s'ouvre et nous positionner dans la présence de Dieu, pour ne pas s'épuiser simplement à faire pour faire. Et ça rejoint aussi le message de Diane d'il y a deux semaines. Mais alors ça veut dire quoi, moissonner avec larmes? Si on veut semer, ça veut dire quoi semer avec larmes? Si en fait on va semer quand le ciel est ouvert et que c'est favorable et qu'il y a la puissance de vie qui fait croître. Et j'ai trouvé super intéressant de creuser un petit peu le sens des mots. Et le mot « semer », ça vient de l'hébreu « zara ». Alors, je ne parle pas du magasin d'habits, même si c'est un peu pareil, parce que quand tu vas au magasin Zara, tu perds ton blé aussi. Hein, mais... tellement c'est cher. Mais « zara », qui veut dire « semer », éparpiller des semences, des graines, être semé, devenir enceinte, produire de la semence, produire de la graine. C'est ça que ça veut dire. C'est intéressant. Mais avec larmes. Avec larmes, c'est le mot hébreu d'ima, qui vient même d'ema. Et ça veut dire larme, goutte. Métaphoriquement, ça veut même dire le vin, l'huile qui coule en goutte du pressoir. Les prémices et les dîmes de ton blé, de tes liqueurs. Et c'est super fort, parce que celui qui sème, qui éparpille la semence, qu'il fait dans un climat stérile et un ciel fermé, mais qui le fait en donnant ce qu'il y a en lui, ça ne va pas vraiment porter du fruit. Mais s'il le fait dans un ciel qui est ouvert, où c'est favorable, où il y a la présence de Dieu, comment ça se passe quelque part qu'on va semer avec larmes? Mais c'est parce qu'à un moment donné, comme on a vu avant, ça peut aussi coûter, même si le ciel est ouvert, de devoir semer. Il y a un pas de foi. Quand on passe, on fait un pas dans le vide, ce n'est pas si simple des fois. C'est une petite mort intérieure. C'est le petit grain de blé en nous qui meurt aussi quelque part. Pour aller plus loin. C'est comme ce vin, cette huile qui est pressée, qui est écrasée, parce qu'on paye ce prix, et ça nous écrase à l'intérieur, mais ça donne la vie. Et ce n'est pas juste qu'on sème quand on le sent, pas juste quand l'occasion est peut-être juste favorable. Il ne faut pas confondre le ciel et les circonstances. On va régner avec Christ, on est positionné avec Christ, on prie avec autorité pour obtenir une percée dans la foi, le ciel s'ouvre. Une fois que le ciel est ouvert, on va semer, même si les circonstances peuvent paraître contraires. Si le ciel est ouvert, mais peut-être les circonstances sont bouchées, c'est là qu'on va peut-être être un peu pressé en semant. Des circonstances difficiles, ce n'est pas un ciel fermé. Si humainement ça coince, si une maladie est humainement tenace, si des liens spirituels semblent difficiles à couper, si une porte est fermée, si un défi humain, c'est des choses qui sont verrouillées sur la terre. Mais ce n'est pas le ciel qui est fermé, forcément. Et on va être amené, en étant positionné dans la foi, à semer, alors que peut-être ça va nous coûter. Coûter parce qu'on va donner tout ce qu'on est, qui on est. Et ça coûte quand on va dans la foi et qu'on marche quelque part dans le vide. Et de le faire avec foi, ça coûte. Et c'est ce mot avec larmes, d'ima, qui veut d'ailleurs aussi dire les prémices, les dîmes, on donne la meilleure part, notre meilleure énergie, tout ce qu'on a. C'est un même principe spirituel d'ailleurs que nos finances. Ce n'est pas une loi ou un devoir, ce n'est même pas une question d'Ancien Testament. C'est avant la première alliance, c'est un principe spirituel. Et ce n'est pas mon sujet du jour. Mais ce verset, en semant avec larmes, c'est-à-dire en semant avec un ciel ouvert, mais en se laissant presser, en se donnant pour l'autre, en allant au-delà peut-être de notre timidité, peut-être au-delà de nos doutes, en sortant de notre zone de confort, en osant, en allant de l'avant. D'ailleurs, Dima, comme on le voit, c'est être pressé, comme l'huile. Ça va faire la différence, comme l'onction. L'onction, elle vient quand on presse l'olive, les olives, ou qu'on presse même des noix où l'huile arrive. Et l'onction, elle vient aussi quand on est pressé, puis qu'on ose aller de l'avant, même quand ça nous coûte. Et là, Dieu exauce, Dieu agit, Dieu multiplie. En semant avec larmes, en donnant le meilleur de ce dont je suis enceint, quelque part, en donnant ce qui est à moi, en payant le prix même d'être pressé. Perdre ma semence sans être sûr du résultat, c'est se lancer dans le vide. C'est un peu une mort de perdre le grain. Et il faut avoir la foi que ça va pousser. Et en semant avec larmes, la suite du verset dit que je vais moissonner avec joie. Je vais moissonner avec joie. Et ce n'est pas une joie mesurée. Là, le mot hébreu, c'est rina, pas confondre avec riana. Mais ça veut dire un cri retentissant dans la proclamation, une joie, une louange, un élan de joie tel qu'on l'exprime. C'est une joie qui est énorme. Ce n'est pas on est un petit peu satisfait du résultat. Il y a quelque chose qui nous... On est bluffé de joie, quoi. C'est fort, ce verset. Quand tu payes le prix, quand tu fais ce pas de croire, que tu te donnes, que le grain que tu perds quelque part en le semant, le temps que tu donnes, l'énergie que tu donnes, ce que tu sèmes de toi, tu vas le moissonner avec joie. Et c'est complémentaire au verset que Paul dit dans 2 Corinthiens 9, 6. Or, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, il va moissonner abondamment. En semant avec parcimonie, je vais récolter avec parcimonie. Et la racine du mot peu, c'est marrant, ça veut dire économiquement. C'est-à-dire si on calcule, se donner, mais pas trop. Mais semer abondamment, c'est le faire avec abondance, avec générosité, c'est-à-dire de tout son cœur, entièrement. Et là, il y a quelque chose sur le résultat qui se passe, dans la qualité et la quantité. Et pour continuer de gratter au niveau du sens du mot, désolé, mais je trouve intéressant, le mot abondamment, eulogio, veut aussi dire une bénédiction concrète. Abondamment, c'est le même mot, ça veut dire une bénédiction concrète, un bienfait. Et quand tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. C'est-à-dire quand tu sèmes concrètement, tu vas aussi récolter concrètement. Tu es positionné au ciel, comme on a déjà vu, c'est bien clair, mais concrètement, c'est-à-dire que tu vas semer et agir, pas seulement spirituellement dans la prière, mais aussi concrètement sur la terre, dans le concret, avec des actions concrètes, prier, témoigner, guérir, délivrer, servir, aider. Et le résultat, il va aussi être sur la terre, concret. Ce n'est pas juste une bénédiction céleste, mais on va voir concrètement aussi une moisson. Et la parole de Dieu, oui, mais dans la version parole vivante, nous dit, rappelez-vous, à semi-parcimonieux, maigre récolte, semez à pleine main et vous moissonnerez abondamment. Et je trouvais intéressant cette version, mais c'est fort. Mais si on revient à notre verset du psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec joie », la suite, le psalmiste y poursuit en disant que celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Celui qui marche, c'est-à-dire celui qui va de l'avant, même quand ça pique quelque part. Celui qui marche, ça veut dire c'est celui qui ne s'arrête pas, mais c'est celui qui continue. C'est celui qui ne s'arrête pas devant le doute, devant le prix de se donner, de se laisser presser, puis de donner qui il est. Et bien, il revient avec joie. C'est un élan de joie et il revient avec des gerbes. L'abondance de la moisson. Comme dit Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et ça va dans le même sens. Et c'est aussi un aspect de semer dans les larmes, d'être pressé, mais aussi, des fois, de tenir dans la durée. De tenir dans la durée. Et si tu continues de marcher, d'aller de l'avant en portant la semence, même en pleurant, Dieu te dit que tu vas récolter et porter des gerbes dans la joie. Et pour entrer dans cette dimension de semer sans retenue, cette dimension de multiplication, je suis convaincu que la clé, c'est la foi. C'est la foi. C'est pour ça qu'on parle de ça ce matin, puis qu'on a commencé là-dessus ce matin. Parce que si on croit vraiment dans l'impact de semer, on va le faire toujours plus. Si on sait que les 10 graines que j'ai, elles vont en produire 60, puis qu'après ces 60, elles vont encore produire fois 10 ou je ne sais pas, on va commencer à semer, on va vouloir le faire. Si on croit vraiment à l'impact de semer, on va toujours le faire plus. Mais si on croit que c'est aléatoire, À quoi bon semer ? Comme celui qui coche ses 5-6 cases de la loterie puis qui gagne jamais, au bout d'un moment, ben voilà, on va peut-être plus tellement jouer finalement. Mais si je suis convaincu que Dieu répond, que Dieu fait croître, que Dieu multiplie ce que je sème et je plante, je vais le faire toujours plus et sans retenue, et toujours avec moins de retenue. Vous vous souvenez, je vous parlais il y a un mois, je reviens juste rapidement là-dessus, de disciples qui ont voulu prier pour un gars qui était épileptique, et puis gravement, puis qui n'ont pas réussi à le guérir. À tel point qu'il était proche de la mort, parce que dans ses crises, il tombait dans l'eau, bien dans le feu, ça pouvait être terrible. Et je vous parlais de l'importance du climat propice, parce qu'en même temps que ça, Jésus et deux, trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils sont allés sur la montagne, ils ont été visités puissamment par la présence de Dieu. Et quand ils redescendent, le père de ce fils, il court vers Jésus, puis il dit, mais tes disciples, ils n'ont pas réussi à le guérir. Et Jésus, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de climat d'incrédulité. C'est une incrédulité ambiante qui était là, qui empêche la guérison de se manifester. Et il va prier pour ce jeune épileptique et il va le guérir. Et comme je le disais, mais je tiens à le redire, parce que pour moi c'est essentiel, si Jésus a guéri ce jeune épileptique, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il s'est fait petit comme un homme, semblable à l'être humain. Il est dit qu'il s'est dépouillé pour venir semblable à nous et il a laissé volontairement tous ses attributs de gloire, sa puissance de côté, pour pouvoir être comme nous, pour que ça soit bien un homme parfait qui meurt à notre place, mais aussi un homme parfait qui prie pour les malades, qui prêche puis qui délivre les autres, pour ouvrir un chemin. Donc ce qui a fait la différence, c'est qu'en redescendant de cette présence de Dieu, où Dieu s'est manifesté, le Père a parlé, il y avait la gloire, ils avaient la tête au troisième ciel, mais ils avaient les pieds sur terre, parce qu'ils n'ont pas campé là-haut comme Pierre l'aurait voulu, mais ils sont descendus directement dans la vallée, avec directement un malade grave devant eux. Mais Jésus va dénoncer ce ciel plombé par l'incrédulité, et il va justement dire que c'est un manque de foi qui fait que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher si on reste les pieds et la tête sur terre, puis qu'on implore le ciel pour qu'il se passe quelque chose. L'idée, c'est d'être vraiment dans le concret, semer concrètement, c'est-à-dire sur terre, mais d'avoir toujours cette tête aussi au ciel. Et c'est là que Jésus va dire que ce qui fait la différence, c'est la foi. C'est la foi, et il va prendre, à la suite de ça, quand il dit aux disciples que c'est un manque de foi, c'est là qu'il va prendre cet exemple du grain de moutarde. C'est quand il descend de la montagne et qu'il guérit cet épileptique, il va dire, ben, c'est un manque de foi. Mais si vous aviez la foi comme ce grain de moutarde, ça aurait tout changé. Et Matthieu 17 au verset 20, il dit, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et si Jésus prend l'image d'une montagne, c'est parce qu'il prend exprès quelque chose qui est humainement impossible. S'il y avait un grand rocher ou quelque chose à côté, il aurait peut-être pris cet exemple. Il prend exprès un exemple démesuré d'une montagne que c'est impossible de bouger. Parce qu'il dit que c'est avec un petit peu de foi, tout est possible. Et je trouve intéressant de creuser et de comprendre pourquoi Jésus compare la foi à ce grain de moutarde. Parce que c'est une clé pour être boosté dans la foi, pour agir davantage, semer davantage. Et la seule autre fois où il est question de grain de moutarde, c'est quand Jésus prêche et qu'il prêche par une parabole, dans Marc 4. Et il dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole est-ce qu'on la représentera? On le représentera. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle est semée, elle a été semée, elle monte, elle devient plus grande que tous les légumes et développe des branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent même habiter sous son ombre. Et cette graine de moutarde ou de senvé, c'est une plante aussi de ces régions orientales. C'est une toute petite graine, mais qui peut atteindre des arbres de plus de 3 mètres. Et en cherchant un peu la sorte de moutarde qu'il y a dans cette région là-bas vers Israël, d'ailleurs c'est le mot, c'est Sinapis nigra, c'est une moutarde noire, mais c'est la plus forte, c'est la plus forte. Donc il prend un exemple de ces mini-graines, mais qui a un impact énorme. Et une des particularités de cette graine, si vous faites des recherches, c'est qu'elle est unique par sa saveur piquante, distinctive, qui est libérée notamment lorsqu'elle est écrasée ou moulue, lorsqu'elle est pressée. Ça nous parle par rapport au grain qui est pressé. Mais une autre particularité de cette plante, c'est que sa croissance est rapide et sa capacité à prospérer dans diverses conditions. Et moi, j'ai trouvé encore hallucinant, en trouvant les particularités du grain de moutarde, qui grandit vite, qui grandit haut, qui change le goût plus que tout, qui a une saveur quand on la presse, quand on sème avec larmes, quand on le presse. Mais lorsqu'on laisse Dieu nous presser, qu'on paye le prix, le goût de cette graine, de foi, elle va faire toute la différence. Si vous faites un peu de la cuisine, des petites graines de moutarde forte, ça fait toute la différence. Et si vous croquez, ou par malheur ou par bonheur, vous croquez dedans, vous allez sentir la saveur. Et les dictionnaires nous disent même que cette graine de moutarde, elle est tellement puissante qu'elle a un effet allélopathique. Alors j'ai dû chercher pour savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a comme des composés chimiques appelés allélochimiques qui peuvent influencer la croissance autour. Et il est mis que c'est tellement puissant ce qu'il y a dans cette graine de moutarde que ça inhibe la croissance des autres choses autour. Donc ça empêche les plantes qui ne sont pas de la moutarde de pousser autour pour qu'elles ne soient pas gênées de pousser puis d'aller en haut. Cette foi, si on laisse pousser cette mini-graine de foi dans notre vie, ça va faire taire aussi l'incrédulité et l'empêcher aussi de pousser, tellement c'est puissant. Empêcher de pousser ce qui n'est pas du royaume de Dieu. On a vu que c'était le royaume de Dieu comme une graine de moutarde. Et c'est la foi qui fait toute la différence. C'est minuscule, mais ça change tout. Et la suite de cette parabole, Jésus il continue en prêchant, en disant la parabole du levain. Dans Luc 13, 20, il dit « À quoi est-ce qu'on comparerait le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine qui fait lever toute la pâte. » Le levain, c'est tout petit, mais ça fait lever tout le pain, toute la pâte. C'est quelque chose de petit, d'insignifiant, mais qui a un grand impact. Comme cette graine de moutarde, il suffit d'un petit peu de foi pour que ça change tout. Et c'est un principe du royaume de Dieu. Et Jésus compare ce royaume de Dieu à une mini-graine de moutarde, la plus petite. Et c'est le cœur de Dieu, parce que souvent, il agit par des petites choses qui ont un impact immédiat. Et cette mini-graine de X millimètres, qui peut faire un arbre de plus de 3 mètres, cette mini-graine qui change le goût de tout un plat, de l'infiniment petit, Dieu fait des grandes choses. Et Dieu aime ça. Et Jésus dit que son royaume est comme ça. Et Dieu, il ne veut pas tout court qu'on se glorifie par notre force, mais il veut avoir un impact dans ce monde par notre faiblesse. Simplement, quand on n'a plus nos moyens, puis tout à coup, on ne sait plus quoi faire humainement, et le seul moyen, c'est des fois d'aller par la foi. Et des fois, il y a plus de choses qui se passent dans certains pays où ils ont moins de ressources médicales, humaines ou autres, parce qu'il n'y a plus d'autres moyens de le faire, ils sont obligés d'aller par la foi. Parce que Dieu veut se glorifier quand il n'y a plus d'autres moyens. Par une foi même qui est petite, il ne veut pas se glorifier par nos talents, mais en manifestant sa puissance. Et avant de poursuivre, j'aimerais te dire, comme une parenthèse, j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi pour être un semeur de vie pour ta génération. Un semeur de vie pour ton entourage. Pas parce que tu es forte, pas parce que tu es fort, pas parce que tu es bourré de talents, mais parce que tu réalises que tu es petit, que tu es insignifiante ou insignifiant, mais que c'est par ta faiblesse qu'il va manifester sa force. C'est en donnant le peu que tu as que ça va avoir un grand impact, comme cette mini-graine de moutarde. C'est quand le faible dit « je suis fort » que l'impact va être réel. Et avant de poursuivre, j'ai encore quelques pensées vraiment qui me tiennent à cœur, j'aimerais juste prier. Seigneur, je te demande pardon si des fois je ne me suis pas senti à la hauteur, ou si j'ai cru que c'était impossible et que je n'ai pas été au-delà, que je n'ai pas semé, que je n'ai pas communiqué les talents qui étaient en moi, que j'ai été sur la retenue, j'ai été avec parcimonie, que j'ai calculé, que ça ne me coûte pas trop, que je n'ai pas trop l'air bête, ou que je ne sois pas trop inconfortable. Je te demande pardon si j'ai pensé que j'étais trop petit. Mais Seigneur, je désire aujourd'hui réaliser que tu fais des choses folles avec des choses toutes petites, que c'est un principe même de ton royaume qui est comme un grain de moutarde, mais aussi que tu dis qu'il suffit d'avoir une toute petite foi pour guérir des maladies qu'on a l'impression qu'ils sont inguérissables, comme cet épileptique. Et Seigneur, moi je te demandais pardon si je me suis vu trop petit et que j'ai quelque part minimisé la puissance de ta parole, la puissance de la foi, la puissance de qui tu es dans ma vie. Et j'aimerais être disponible pour croire en toi et croire en ta parole et pour aller de l'avant. Je vais me laisser toucher ce matin par un élan de foi. J'aimerais ce matin que tu viennes booster ma foi. Je ne veux pas juste entendre une théorie ou une leçon, mais je désire rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Amen. Et ce que j'aimerais retenir de cette foi, c'est qu'elle est, aussi petite qu'elle est, elle a un impact énorme. On a vu, hein, croissance, hauteur, goût. Mais aussi petitement, j'allais dire, que tu crois, aussi les dons et les talents qui sont en toi, les semences de vie que Dieu t'a déjà données, Dieu compare ses dons à des semences qui ont un impact énorme, puis qui vont se multiplier. Il ne demande pas d'avoir une immense graine dans ta vie. Il suffit d'en avoir une petite comme la moutarde. Si tu la donnes plus loin, ça a un effet. Mais il faut un ciel ouvert pour semer et il faut croire que ça pousse pour produire du fruit. Et la foi, c'est déjà donner ce qu'on a pour que ça se multiplie. Et Dieu cherche simplement des gens qui croient en sa puissance, qui se lèvent, qui agissent et qui sèment sans retenue. C'est Jésus qui a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et pour conclure ce temps, il y a 2 semaines, Diane nous a vraiment encouragés à rechercher cette paix qu'on trouve dans la présence de Dieu. Pas forcément à faire moins, ce n'était pas de ça qu'elle parlait, mais pas à se laisser enfermer par la pression du faire, mais d'agir avec cette paix de l'esprit. Puis en plaisantant à un moment donné dans le message, pour ceux qui étaient là, elle a dit « Ah, ben ça peut être le prochain sujet du message de David », parce qu'il y avait un peu une énigme dans un des versets qu'elle a sorti, un verset un peu énigmatique de la Bible qu'on trouve dans Ésaïe 55, 1, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Puis elle disait « Mais comment tu veux acheter si c'est gratuit? Tu ne peux pas acheter gratuitement. » Puis elle a dit « Ah ben, je laisserai David en parler dans 2 semaines. » Je la remercie infiniment pour cette patate chaude. Bon, vous avez vu que ce n'était pas le sujet de mon message aujourd'hui, hein, mais pour jouer le jeu, je me suis dit, je vais quand même jeter un coup d'œil. Et ça vaut le détour pour terminer ce moment. Ça vaut le détour. Alors ce verset, même si c'est une invitation à recevoir gratuitement le salut et les bénédictions de Dieu spirituel, et quand il est mis « acheter sans argent », ben, c'est une image, quelque part, d'aller chercher cette grâce qui est gratuite, où Dieu s'est offert gratuitement, sans que nous ayons à la payer par nos propres efforts. Et enfin, ce verset il nous invite à chercher et à désirer vraiment les choses spirituelles symbolisées par l'eau, le vin, le lait, plutôt que les choses matérielles aussi. Puis il nous rappelle que c'est en Dieu qu'on va trouver notre véritable satisfaction et accomplissement. Mais là où ce gag de me transmettre ce verset dépasse la plaisanterie, c'est que cet appel à tous, ceux qui ont faim et soif, à venir acheter et manger du vin, du lait, sans payer. Ce qui est fou, c'est que le mot « acheter », ça vient de « shabar », qui veut dire « acheter » ou « acheter du grain ». C'est le même sens, « acheter du grain ». C'est la même racine que le mot, ça vient de « sheber », qui veut dire « grain », qui veut dire « blé ». Et j'ai trouvé hallucinant, comme quoi même en plaisantant, on peut être prophétique. Ce verset que Diane a utilisé par rapport à son message, avec la suite « Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui nourrit pas ? » En fait, c'est un encouragement à venir avec cette faim et cette soif vers le Seigneur pour acheter du blé, pour acheter des semences. Un message prophétique qui dit « Mais venez acheter, venez, venez, c'est gratos, c'est gratuit. » Autrement dit, mais prenez tout ce que vous voulez, prenez, prenez, mangez aussi du vin, du lait, soyez abreuvés, déjà vous-même au passage. Et Dieu ce matin nous encourage à venir assoiffés vers lui, passionné de lui dans sa grâce, mais apprendre à venir chercher gratuitement, prendre toutes ces graines qu'il y a, qui seront toujours là. Donc si tu donnes ce qu'il y a en toi, tu ne vas pas finir avec plus rien en toi. Tu peux donner encore et encore, parce que tu peux venir vers lui chercher gratuitement. Et j'aimerais dire la chose suivante, c'est la suite vraiment de un mois. Si Dieu nous demande de semer, c'est parce qu'il va pourvoir. Il ne va pas nous demander de semer s'il ne va pas agir derrière. Il ne va pas te demander de semer si tu n'as plus de semences. C'est que la semence, elle est abondante dans ces greniers et que quand on sème, il y a quelque chose qui se passe. Sinon, il ne nous dirait pas d'aller semer. S'il nous le dit, c'est qu'il va agir. Sinon, il ne nous le dirait pas. Nous donner des semences de vie en abondance, et c'est lui qui va faire croître, qui va faire multiplier. Et comme le dit Shabar, acheter gratuitement du grain. Il suffit de venir à lui, assoiffé, dans sa présence, être nourri, saisir gratuitement des semences en abondance pour qu'on les donne. Et plus je les donne, plus je vais en avoir. Plus je les donne, plus je vais en avoir. C'est comme cette femme, à un moment donné, où il y a ce miracle avec Élie ou Élisée. Plus elle a des bols, plus il y a de l'huile qui se multiplie. Plus elle met des bols, plus il y a de l'huile. Et moi, plus je vais semer, plus je vais avoir du grain à semer. Et il y a un effet de multiplication. Et c'est là que je suis convaincu qu'il désire booster notre foi Et c'est mon message d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste comme il y a un mois, il faut semer ou c'est le temps de semer. Mais si j'ai cette foi tout petite et que je crois que ça pousse, je vais juste vouloir semer toujours plus. Croire pour semer avec abondance. Et c'est comme ça commence en allant vers Dieu, affamé. Prendre tout, acheter, shabar, gratuitement, abondamment. Et on va oser planter ce grain de moutarde, voir avec foi les choses bouger. Et c'est intéressant la suite de ce passage d'Ésaïe 55. Et je vais terminer tantôt avec ça. Vous pouvez déjà peut-être venir au niveau des musiciens. Ésaïe 55, verset 6, où il est dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est prêt. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel, il est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Et là, c'est intéressant ce qu'il a dit au verset 10. « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Quand on recherche l'Éternel tandis qu'il est prêt, comme on a vu avant, il nous fait descendre cette pluie et sa vie sur nous, qui va pas agir sans avoir arrosé la terre de nos cœurs, sans l'avoir fécondée, sans la faire germer, sans avoir fourni aussi de la semence au semeur et aussi du pain pour qu'on soit nourri et abreuvé et du pain à ceux qui nous entourent. Et quand on s'approche de Dieu, la semence est là. Venez acheter Shabar gratuitement et il fournit en abondance cette graine, ces graines. Et l'appel ce matin, c'est vraiment de s'approcher de Dieu. Parce qu'en lui, il y a une abondance de semences. Une abondance de semences. Où il va multiplier ses semences quand on fait ce pas de foi. Quand je suis prêt à me dire, je vais marcher dans le vide, je ne sais pas si ça va tenir, mais je vais y aller. Et c'est là que Dieu commence à agir, quand nos limites sont atteintes. Et si j'entends Dieu me parler, la parole de Dieu, d'avoir cette foi, et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je vais vouloir aller plus loin. Et je vous propose qu'on puisse se lever pour terminer ce temps, parce que j'aimerais prier plusieurs choses. Et pour commencer, j'aimerais prier pour chacun, là où la foi a peut-être été entamée, déçue par une non-réponse. Et je t'invite maintenant, avant que je prie qu'il y ait un nouvel élan de foi dans ta vie, dépose devant le Seigneur tes déceptions ou tes questions sans réponse, ou là où tu as eu l'impression qu'en semant, ça n'a pas poussé. Tu peux chercher à comprendre toute ta vie ou à rester sur cette déception. Mais Dieu veut nous et veut t'amener plus loin, il veut m'amener plus loin. Tu puisses juste lui déposer toute déception, toute incompréhension, là où tu as eu l'impression que ça n'a pas poussé comme tu l'imaginais. Seigneur, je te dépose toutes ces questions sans réponse. Tout ce que j'ai eu l'impression que je ne voyais pas d'exaucement dans l'invisible, ou que je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y avait d'autres choses que je n'ai pas vues et que tu as agi de façon puissante, en coulisses, en arrière, ou plus tard, ou des choses que je ne pouvais pas percevoir moi-même. Mais je veux juste te dire, je veux te faire confiance et je ne veux pas rester sur ces déceptions et puis du coup arrêter de semer, ou bien semer rarement. Et Seigneur, je veux me délier maintenant aussi de toute parole que j'aurais pu dire comme quoi tu réponds pas ou peu ou qu'on voit peu de résultats. Et je brise ces liens sur nos vies, sur ma vie, ici dans cette salle. Tout lien d'incrédulité au nom de Jésus, nous les coupons au nom de Jésus. Et je veux libérer un nouvel élan de foi pour qu'on puisse semer avec abondance, sans retenue, parce qu'on sait que ça va pousser. Parce que naturellement, quand on sème quelque chose, peut-être que des fois, il y a une semence qui ne va pas prendre. Mais vu qu'on en sème tellement, on va avoir beaucoup de moissons. Et on ne va pas mettre le focus sur la petite graine qui ne pousse pas, mais il y en a tellement d'autres qui vont pousser. Et Seigneur, je te prie de donner un nouvel élan de foi. Dans ces lieux, dans cette salle, sur chacun d'entre nous, dans ma vie, dans cette église, une foi qui nous libère pour semer en abondance, pour prier quand l'occasion est là, pour prier pour la guérison, pour prier pour les captifs, pour témoigner de la vie qu'il y a en nous, pour oser être pressé, sortir de notre zone de confort et laisser ce grain être pressé où cette olive est pressée pour créer de l'huile, créer l'onction qui va libérer l'accomplissement et la guérison. Seigneur, je désire rentrer dans cette moisson en me laissant être pressé. Et même si je dois semer avec larmes, je vais moissonner avec joie. Même si ça peut me coûter par moments, je vais moissonner avec joie et allégresse. Des gerbes, pas juste pour un grain, un exaucement, mais une multiplication. Et je veux saisir ça, et nous voulons saisir ça pour cette saison qui vient en tant qu'Église Passion. On veut saisir une nouvelle saison de foi, une nouvelle saison où on sème et une nouvelle saison de moisson et de moisson en abondance. Alléluia. On saisit ça au nom de Jésus. Alléluia. Et on a vu il y a quelque temps où je disais que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de la Bible. Et ça vient aussi de ce qu'on entend quand Dieu nous parle. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir l'entendement spirituel maintenant, qu'on puisse entendre quand tu nous parles, ou quand tu nous dis, vas-y, prie, vas-y, dis un mot, souris, porte les commissions de cette personne, fais ceci, pour qu'on puisse semer la vie au bon moment, au temps opportun, et puis que ça puisse produire du fruit. Et Seigneur, on veut agir comme le Père le faisait. Et je te prie, Seigneur, que ce qui est bouché en nous maintenant, tout ce qui empêche d'entendre, tout le canal prophétique ou de la révélation qui est encombré, soit désencombré maintenant au nom de Jésus, pour qu'on puisse être un peuple qui entend, et une fois qu'il a entendu, qui sème et qui agit, et qui voit le résultat. Et Seigneur, c'est ça qu'on désire, Seigneur, pour nos vies, pour cette Église, pour que tu puisses changer cette génération, que tu puisses changer cette région. Parce qu'on sait que quand on sème, ça pousse. Et on veut semer. Alors mets en nous, Seigneur, cet élan de foi. Au nom de Jésus. Amen.